À deux, c'est mieux, avec Luc Denoncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
Aujourd'hui, de la belle visite à deux, c'est mieux, la visite de Claude Lemay, que les gens connaissent sous le nom de Mégo. Bonjour, ça va bien?
Oui, bonjour, très bien, oui, très bien.
Mégo, on peut t'appeler comme ça, j'imagine.
Ben oui.
Une biographie?
Vous ne seriez pas le premier.
Ça arrive comment, une biographie?
Biographie, c'est drôle comment c'est arrivé dans ce cas-ci. C'est que j'ai un voisin qui s'appelle Frédéric Arnould.
Okay.
Qui
est journaliste.
Qui est mon voisin d'en face, qui est journaliste à Radio-Canada. Et un soir de... Et il est sommelier aussi, en passant, okay. Frédéric Arnould.
C'est pas pire comme voisin,
donc,
ça?
C'est ça. Fait que une soirée de dégustation, on a commencé à jaser. Et je lui ai dit mon désir d'écrire un livre. Mais moi, je pensais plutôt que ce serait sous forme de chronique de voyage, si tu veux. Puis de, en fait, j'aurais appelé ça quelque chose comme... 30 ans avec Céline, anecdotes et conseils de voyage,
okay,
ou quelque chose comme ça. Puis il dit, ben moi, il dit, j'aimerais t'offrir quelque chose. Il dit, moi, j'aimerais ça écrire une biographie, mais il dit, j'aimerais vraiment écrire toute ta vie, pas que des anecdotes, t'sais. Donc, j'ai dit, oui, OK. On a fait des tests. Donc, il a commencé... l'écriture du livre, il a écrit 3 chapitres. Et quand j'ai lu sa façon d'écrire, quand j'ai lu... c'est très romancé, hein, comme biographie.
Oh, ouais.
Ça se lit comme un roman.
Oh, ouais, tout à fait.
Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, ce côté-là. Donc, j'ai tout de suite accepté, puis on a continué. Puis c'est ce qu'on a fait la dernière année, en fait. Ça a pris un an de meeting et je dirais pas de dégustation.
Mais... Il y en a eu un peu quand même.
Il y en a eu un peu.
Et de visite aussi. Parce que ce qu'il y a de particulier dans ce projet-là, c'est qu'il vous a ramené aux endroits.
Ah oui.
Donc,
on est allé partout.
Ça change un peu la donne d'écriture.
Oui, oui, exactement. C'est que ça amène justement quelque chose. Ça amène du vécu plutôt que que de la description.
Oh, ouais.
Donc, oui, on est allé dans la maison où je suis né, au 6802 de Normanville, à Montréal. Le propriétaire de cette maison-là nous a gentiment accueillis, parce que c'était quand même pas évident. Là, il savait pas trop qui l'appelait, puis tout ça. Et oui, on a visité la maison. Ensuite, on est allé chez les Petits Chanteurs du Mont-Royal, parce que j'étais chez les Petits Chanteurs du Mont-Royal là, quand j'étais jeune. Et après ça, on est allé dans mes maisons, où est-ce que j'ai habité à Longueuil, et à gauche et à droite. On est même allé jusqu'à Vegas. Je lui ai montré où je vivais, tout ça. Et donc, il a bien senti tout l'environnement dans lequel j'étais.
Évidemment, le point de départ un peu de tout ça, et d'ailleurs ça commence comme ça, c'est la journée où on apprend que l'aventure avec Céline se termine.
Oui, mais on ne le sait pas encore.
Non.
Hein? Parce que
on l'apprend.
Je m'en vais
vers
ce meeting-là, ouais. Et ça s'en va dans ma vie à partir du moment où je suis né, presque. Et c'est plus vers la fin du livre qu'on découvre la raison de ce meeting-là.
Ça commence très jeune, la musique, à 8 ans, les petits chanteurs du Mont-Royal. Ça vient d'où, cette passion-là pour la musique?
Je ne sais pas d'où que ça vient.
Parce que les parents...
Je vais te dire, je pense que c'est plus le goût d'avoir des petits frères. Parce que moi, j'étais fils unique. Puis, plus tard dans la vie, j'ai découvert que j'avais une demi-sœur. Mais au début, c'était l'idée, c'était d'avoir des petits frères. T'sais, j'avais pas de frères, donc ni de sœurs. Et c'était un peu de faire des rencontres, puis d'avoir des chums, puis tout ça. C'est de là que ça a parti. J'avais un talent, semble-t-il, pour le chant. Donc, c'est sûr que ça a dû aider. Mais et après, c'est là que j'ai commencé à faire de la musique chez les petits chanteurs du Mont-Royal.
Mais rapidement, ouais. C'est de la musique qui est arrivée. Le chant a été tassé par la musique rapidement pour vous, quand même. Vous êtes devenu musicien plus que chanteur, éventuellement.
Oui, aujourd'hui, je pense pas que vous ayez vraiment envie de m'entendre chanter.
Il y a eu plein de bandes après ça, dont des bandes qui vous ont amené un peu partout. Vous êtes allé à Londres, entre autres, avec un des bands.
Oui, avec Jude Tree. C'était un de mes premiers bands. Oui, on est allé à Londres. On avait gagné un concours d'orchestre contre un band qui s'appelait Mahogany Rush, qui était, je pense qu'on était plus originaux que... lui faisait surtout des tunes qui ressemblaient beaucoup à Jimi Hendrix à l'époque. Tandis que nous, c'était vraiment original. C'était un mélange. Jude Tree, c'était comme un mélange de Beatles, puis de Led Zeppelin, puis de la vague de musique britannique de ces années-là. Là.
Mais c'est comment quand on est un fan des Beatles d'aller jouer, d'aller se promener en Angleterre, justement?
Ben c'est ça. C'est tellement le fun. Tu sais, c'est comme...
Surtout à cet âge-là? Ben oui. Adolescent ou ouais, début adulte?
Je devais avoir quoi? Mon fils n'était pas encore né. Je devais avoir 19 ans, 18 ans peut-être. Ouais.
Quand même.
Oui. Puis d'ailleurs, quand on est arrivé à Londres ce jour-là, on n'avait pas d'endroit où rester. J'étais allé à Londres avec 100$ dans mes poches pour un mois.
Oh boy.
À Londres. Puis à Londres est une
ville. Oui, c'est pas long que le 100$ s'est passé.
C'est pas long que le 100$ s'est passé. Puis donc, on s'était loué un appart qui était libre pour... mais on a fait ça, on a découvert les téléphones, comment ça fonctionnait, les téléphones publics, là, qu'on allait dans la cabine téléphonique, puis il fallait mettre un shilling, puis il fallait mettre des pence, puis on ne savait pas, tu sais, ça raccrochait, puis on ne comprenait pas pourquoi ça raccroche. Mais c'est que ça marchait par durée, ça marchait par la durée, les téléphones. Donc on appelait, puis là, on a trouvé un appartement dans Kilburn, qui est une section ouvrière dans le nord de Londres. Et on s'est loué un appartement là pendant un mois. Puis on vivait là, puis c'était comme une commune un peu, là.
Mais est-ce que c'est le rêve de devenir une star qui commence à ce moment-là? Parce qu'on a la chance de gagner un concours, on va en Angleterre, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un buzz autour du band, en tout cas.
Oui, il y a un gros buzz autour du band. C'est l'envie des voyages aussi. Je découvre le voyage, je découvre voyager. Moi, j'ai toujours voyagé toute ma vie puis après. Et c'était la première visite. C'est en même temps la découverte des bandes anglais de l'époque, les Slade, puis les bottes en piton avec les hautes plateformes, là, puis tout ça. C'était cette époque-là. C'était excitant. J'ai vu David Bowie là. D'ailleurs, dans mes goûts musicaux, je parle beaucoup de David Bowie. J'ai deux tunes de David Bowie, une de cette époque-là, Life from Mars, et le dernier album qu'il a fait à sa mort, la tune Lazarus, qui sont deux tunes que je trouve, premièrement, mélodiquement, la première, Life on Mars, c'est Life from Mars ou Life on Mars, je me souviens pas. Là.
C'est On Mars.
On Mars. Puis c'est une grande toune mélodique que je trouve. Et celle de l'album qui est sorti, Lazarus, celle de l'album qui est sorti une semaine avant sa mort, je trouve que c'est une chanson qui décrit la mort. Et c'est une chanson
alors qu'il ne le savait pas, vraiment.
Il le savait.
C'est nous qui le savions.
Vous regardez, nous, on ne le savait pas, parce qu'il ne voulait pas que ça soit public. Mais c'est une chanson qui me bouleverse beaucoup à chaque fois que je l'entends. Puis je l'écoute souvent, ça brasse. C'est spécial, je trouve, cette tune.
Pourquoi les bands, ça s'est arrêté à un moment donné?
Ben, les bands
sont
arrêtés.
Parce que là, on rêvait de ça, on pensait que c'était parti pour la gloire. À un moment donné, tout ça s'est arrêté.
Pollen aussi, après, qui est arrivé après Jude Tree, Pollen. Nécessité aussi. L'époque des bands s'est terminée quand à un moment donné, tu as le goût de vivre. Là. T'as le goût
tu veux gagner ta vie.
Tu veux gagner ta vie, tu sais. Donc,
Il y a un enfant qui est là, déjà à ce moment-là?
Oui.
Donc, en plus, il faut absolument rapporter de l'argent.
Oui, donc je faisais beaucoup de suppléances dans les écoles. Je faisais des cours de français, puis des cours de... J'étais assez fort en français. Ça s'est gâché par la suite. Mais, mais à ce moment-là, j'étais très bon en français, donc je pouvais l'enseigner facilement et du théâtre aussi. Là, j'ai eu une offre de Paul Baillargeon qui est arrivé, qui était le producteur de notre disque de Pollen.
OK.
Et qu'à un moment donné, il m'a appelé un jour de tempête de neige, puis il me dit, viendrais-tu faire un jingle? Un jingle, c'est un commercial, ouais. La musique d'un commercial. Et il m'a ouvert à ça. Il m'a comme montré qu'on pouvait gagner sa vie à faire de la musique si on était comme sideman, si on était...
Accompagnateur.
Oui. Pigiste. C'est le mot que je cherchais.
Okay.
Donc j'ai dit, ouais, c'est vrai que c'est pas bête. T'sais. Puis les groupes, ben là, ça... ça c'est arrivé dans le temps des Jeux olympiques de Montréal en 1976. Donc le band, tout le monde s'est mis à travailler pour les Olympiques parce que c'était la manne qui arrivait. Là. Tout le monde travaillait aux Olympiques. Puis donc le band, il en a souffert, tu sais, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, peut-être que ça serait le temps que je parte
tout seul,
tu sais, de mon côté. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des commerciaux. Et là, c'est là que j'ai reçu des appels pour... La première personne avec qui j'ai joué, c'est Raoul Duguay. Puis,
qui était en plein essor à ce moment-là.
Ben oui, était en plein essor fort, à ce moment-là, ouais. Puis oui, la Bétatibi, puis...
On était là-dedans, c'était
ouais.
Plein là-dedans.
Ouais. Ouais.
On parlait de Raoul Duguay tout à l'heure, c'est là ouais. Que ça commence, ce côté-là, Sideman, où on accompagne
ouais.
Différents artistes. Il y a eu Fabienne Thibault.
Il y a eu Claude Dubois.
Il y a eu Dalida. Mais ça Dalida, c'est pas hein. Bien j'ai fait... passé, non?
Non. J'ai fait... Non, ça s'est plus que pas bien passé. En tout cas, pour elle. Là. Pour moi, ça ne changeait rien. Mais pour elle, là, en fait, ce qui est arrivé... Ben, on a fait le Carnegie Hall à New York. Puis après, on a fait la Place des Arts. Ça. Et ça s'est terminé au Grand Théâtre de Québec. Au Grand Théâtre de Québec, elle est arrivée en nous disant que, premièrement, c'était jamais elle qui parlait, c'était tout le temps
Orlando
qui parlait. Donc, elle dit, Orlando, tu expliques aux gens, aux musiciens, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il nous explique qu'il va avoir une bande et qu'elle va chanter par-dessus la bande. Mais sauf qu'elle ne chantait pas par-dessus la bande, c'était une bande.
T'sais. C'était pas elle qui chantait non plus.
C'était pas elle qui chantait non plus. Donc... Il dit aux musiciens, s'il vous plaît, faites semblant de jouer. T'sais. Puis j'ai dit, je m'excuse, moi je fais pas semblant de jouer. Je joue pas. Tu fais ce que tu veux, puis bon, parfait. Donc, je décide de pas jouer. Donc, j'ai les bras croisés pendant cette chanson-là. Donc, le tape part. Mais le tape, en plein milieu, arrête, puis ça fait... Tu sais,
ça paraît, le
public au complet voit que Dalida, elle chantait pas. Et ça a fait une grosse histoire après, là. En tout cas.
Un point tournant, ça a été Jean-Guy Moreau. Vous avez accompagné beaucoup Jean-Guy Moreau.
Vraiment. Ça a été un point tournant parce que c'est là... où j'ai appris le timing en comédie. C'est là que j'ai appris comment réagir avec une salle, comment regarder une salle, comment... Il m'a donné plein de trucs, Jean-Guy. Et je faisais... pendant qu'il faisait ses imitations, moi, je faisais comme la traduction simultanée dans un cerceau.
OK.
Et je rentrais toujours avec le cerceau sur la scène. Et ça devenait le running gag. Déjà, les gens, quand ils me voyaient rentrer avec le cerceau, là, ça partait juste à me voir rentrer avec le cerceau. Et j'imitais ce qu'il lui disait. Donc... j'ai appris beaucoup avec lui, justement, ce timing-là, le moment où il faut se retenir, où il faut arrêter, où il faut en donner, tu sais, laisser les applauds, laisser les rires, tu sais, ne jamais
l'émotion
embarquer
par-dessus
les rires, les émotions, tout ça. Donc, j'ai appris beaucoup avec Jean-Guy, mon côté plus... je dirais showman, show business. Ça m'a servi toute ma vie après. Ça m'a servi beaucoup avec Céline quand il était temps de faire des... le premier show que j'ai fait avec Céline, de toute façon, c'était ça s'appelait Incognito et j'avais un numéro d'imitation. Pas un numéro d'imitation, mais un numéro que je faisais pendant 20 minutes. On en reparlera peut-être plus tard. Et ça m'a servi toute ma vie, ça. L'autre moment, l'autre chose qui m'a beaucoup servi dans mon métier, c'est le Festival de la chanson de Granby. Parce que le Festival de la chanson de Granby, il faut écrire 96 chansons en un mois et écrire les arrangements. Et
pour tous les participants.
Pour tous les participants. Il y a 32 participants qui font 3 tunes chaque. Ça fait 96 tunes. Donc, et ces 96 tunes-là, il faut les jouer en 4 jours. Donc, et, tu sais, chaque participant a, je me souviens pas, 3 quarts d'heure, je pense.
Et chaque participant a sa couleur, son style.
Oui. Puis après ça, il y a une autre répétition juste avant leur gala, là où ils ont seulement qu'une demi-heure chacun. Chacun a son style, chacun a son idée de ce qu'il veut projeter, tout ça. Et ça, je vais te dire, là, la formation de chef d'orchestre, là, c'est... Donc, je dirais que le Festival de la chanson de Granby et Jean-Guy Moreau, c'est les gens qui m'ont formé, vraiment.
D'ailleurs, dans les remerciements, vous remerciez Sophie Moreau, la fille de Jean-Guy,
oui.
qui vous a beaucoup aidé dans les archives.
Oui,
dans...
oui.
Est-ce que vous aviez une belle relation avec Sophie à l'époque? Vous l'avez vue grandir?
Oui, ben, je l'ai vue grandir. Elle était du même âge que mon fils, en plus. Okay.
Donc, oui. ils ont grandi un
ils
peu ensemble.
Ils ont grandi un peu ensemble, oui, à travers la tournée, dans les coulisses, oui. Puis même, on les a fait entrer sur la scène
okay.
un soir. Où, je me souviendrai toujours à Longueuil, où, à la salle... comment s'appelle cette salle-là, à Longueuil? Jean-Louis Millet, maintenant.
Ouais.
C'était drôle de voir les enfants sur la scène. Donc, il y avait moi, Jean-Guy, et nos deux enfants. Il fallait qu'ils amènent un accessoire ou quelque chose d'assez simple.
Et qu'ils avaient quel âge à ce moment-là, les enfants?
Ils avaient 5 ans.
OK.
Et Mathieu, mon plus grand garçon, qui a 45 ans aujourd'hui, il était tellement gêné, là. C'était tellement pas sa place sur une scène, il se sentait tellement pas bien là, d'être sur la scène.
Et Jean-Guy Moreau fait que c'est là que ça commence avec Céline, parce qu'on cherchait
ouais.
un musicien polyvalent
ouais.
et on le savait. D'ailleurs, vous avez été surpris quand vous approchez.
Oui, j'ai été surpris. J'étais justement au Festival de la chanson de Granby quand on m'a approché. C'est Jean-Claude L'Espérance qui était partenaire avec René dans l'aventure de Céline. Et Jean-Claude m'a appelé un soir pendant que j'étais à Granby, à l'hôtel. Il savait que j'étais là. De toute façon, il m'appelle et il me dit, écoute, on a pensé à toi pour jouer avec Céline Dion. Ben, j'ai dit, je pense que vous n'appelez pas le bon gars. Je pense pas que je suis le gars pour Céline. Moi, l'image de Céline, c'était la colombe. Puis, j'étais pas. Moi, j'étais plutôt rock. Je venais de jouer avec Walter Rossi, qui est un anglo-américain, qui était un anglo-canadien, qui était très, très populaire à l'époque. Et je me voyais pas là. J'ai dit, écoutez, je pense que vous appelez pas le bon gars, là. Et Jean-Claude m'a dit, oui, on pense que c'était le bon gars, puis il va avoir un spécial à la télé dimanche prochain. On t'invite à le regarder et donne-moi ta réponse juste après l'avoir regardé. ce spécial-là. Donc, je regarde le spécial. C'était le lancement de l'album Incognito. Donc, Céline, elle devenait une femme. Ouais. Puis, les tunes m'intéressaient. Je trouvais que c'était bien fait. Puis, donc, je les ai rappelés. Puis, j'ai dit, oui, ça m'intéresse finalement. Merci de m'avoir laissé réfléchir là-dessus. Mais j'avoue, oui, ça me tente. Et l'aventure a duré 28 ans.
À quel moment vous avez compris que Céline, ça allait être une grosse...
Ça a été vite. Quand je suis allé prendre ses tonalités,
la première fois que vous avez travaillé ensemble. Donc.
Première fois que je l'ai rencontré, on devait faire un medley de tunes de Broadway, tu sais, de tunes de comédie musicale. Et je suis allé chez elle et c'est la première fois que je la rencontre, tout ça. Quand je me suis mis au piano et quand elle s'est mise à chanter, je te jure, le poil m'a levé ses bras. Là. J'ai été très impressionné par elle. D'ailleurs, deux semaines après, on jouait au Saint-Denis. Non, pas deux semaines après, peut-être deux mois après. Et au Théâtre Saint-Denis. Et les gens de Musique Plus étaient venus me voir. Qu'est-ce que vous pensez du spectacle? Bon, tout ça. Et je leur ai dit, écoutez, Céline, ça commence, là. J'ai dit, c'est certain que Céline, elle va faire le tour du monde. J'en suis convaincu. Et, naturellement, c'est ce qui est arrivé.
Et ça a bien donné, vous étiez avec pour le tour du monde. Ce qui n'est pas désagréable.
Oui, ben oui, pour quelqu'un qui veut voyager.
Les premières tournées, c'était beaucoup au Québec, évidemment, les premiers spectacles de Céline.
Beaucoup.
Dans ces moments-là, il y a eu le tremblement de terre de Chicoutimi.
Oui, c'était très familial, hein, by the way, le tout ça, là, on était toujours au resto ensemble. Tous les musiciens, Céline, René, les techniciens, tu sais, puis à chaque soir, après un spectacle, il y avait une table à quelque part, puis on se voyait régulièrement, tout le temps, en fait.
C'était comment Chicoutimi? Parce que ça a fait 30 ans, il n'y a pas longtemps.
Le tremblement de terre, oui,
en novembre 88, donc ça fait 30 ans, il n'y a pas longtemps. Radio-Canada vous en a parlé.
Oui, oui, c'est vrai. Oui. Le tremblement de terre, écoute, moi j'étais dans le milieu de la rue. Là. En fait, on avait été invité à aller manger d'un petit restaurant, d'une petite binerie. On avait été invité, on était moi, René et Céline. Et on avait été invité à manger une tourtière du lac Saint-Jean. Puis... Et juste comme on finit de manger, le tremblement de terre commence. Et là, moi, je m'en vais tout de suite dehors, puis je regarde dans la rue. Et la rue, là, c'est des vagues. Là. La rue se promène.
On voit la rue bouger. Okay.
Ah oui, on voit clairement. Là. Et les poteaux électriques, là, tout ce... T'sais, on voit toutes les flamèches. Là,
okay.
C'était quelque chose ce soir-là. Et c'est drôle parce que je voyais Céline qu'elle s'occupait d'une petite madame là, qui avait tellement peur. Puis Céline était après, puis elle la réconfortait. Puis elle disait non, tout va être correct, puis tout ça. Puis ça a brassé cette fois-là. Ça a brassé pas mal. D'ailleurs, il n'y avait plus de téléphone, plus d'électricité pour toute la soirée après, hein, pour toute la nuit. Les musiciens essayaient de rejoindre leur famille au téléphone, puis les lignes téléphoniques étaient... Non, il n'y avait plus rien qui marchait.
Dans les premières tournées avec Céline, arrive un moment triste dans votre vie, le décès de votre père.
Ah oui.
Et ce soir-là, vous êtes en spectacle à Drummondville, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement.
C'est comment ça, quand The Show Must Go On, comme on dit? Est-ce que c'est dur à vivre ce moment-là? Parce que vous saviez que ça s'en venait, mais vous ne saviez pas que ça allait être là.
Oui, mon père était à l'hôpital Pierre Boucher pour un cancer du côlon depuis deux semaines. Et ce soir-là, j'ai passé voir mon père à l'hôpital avant d'aller à Drummondville. Avant d'aller au test de son à Drummondville. Ma mère m'a appelé à Drummondville parce que j'y avais donné mon numéro de cellulaire qu'elle puisse me rejoindre
en tout temps.
Et c'est là qu'elle m'a annoncé que mon père était décédé. Et c'était comme une heure avant le concert. Alors, pendant le concert, je jouais une toune. On jouait une toune qui s'appelait « Comme un cœur froid ». de Céline. Là, mais ce qui était correct, c'est que j'étais dos au public. Quand je jouais cette chanson-là, j'avais un setup de clavier que j'avais un piano qui était comme, j'étais comme perpendiculaire au public. Le public était sur ma droite. Et cette chanson-là, je la jouais sur mes claviers qui étaient dirigés vers les musiciens pour que je puisse diriger en même temps. Donc, on commence un cœur froid, puis là, comme un cœur froid, la vie, je me souviens plus des paroles, mais là, moi, je les écoute, les paroles. Là. Puis là, je pleure comme un bébé pendant toute la chanson. Sauf que la chanson qui arrive après, c'est justement les imitations de Céline où moi, je fais un numéro comique. Fait que là, la marche est haute, là. La marche,
faut essuyer
là,
l'âme, là, puis il faut que ça soit drôle.
Puis faut que ça soit drôle. Hey, the show must go on. Puis il faut que ça soit drôle, oui. Donc, je sais pas qu'est-ce qui fait qu'on retrouve cette force-là, mais je me suis retourné, puis on a fait le show, puis personne ne s'est jamais aperçu que ce soir-là, mon père était décédé. T'sais. Parce que le numéro, il était aussi comique que d'habitude, sinon plus. Puis,
Et à la limite, ça vous a fait du bien aussi?
À la limite, j'imagine. Ça m'a fait du bien, oui, mais tu sais, c'est une grosse perte. Quand tu perds ton père et ta
jeune.
Mère, là, oui.
Votre père, c'était jeune?
Oui, il a 69 ans. Ma mère, c'était plus vieux, mais mon père, oui, c'était à 69 ans.
Est-ce qu'après ça, ça vous a rapproché de votre mère encore plus? Je sais que oui. Vous aviez une belle relation avec elle déjà depuis très
depuis
jeune.
Depuis toujours.
Mais est-ce que ça a changé un peu parce que c'est fils unique?
Oui, peut-être c'est ça. Oui, c'est peut-être ça. Oui, mais j'ai toujours été très proche de ma mère. Donc, oui, je la visitais le plus souvent possible. Et c'est à ce moment-là, une visite un mois après le décès de mon père, que ma mère m'a appris qu'elle avait eu un enfant avant. Elle s'était fait violer à l'âge de 18 ans. Et elle n'a jamais été capable de lui dire à mon père parce qu'elle pensait qu'elle le perdrait. Et ce jour-là, elle me l'a annoncé. Puis elle m'a dit, je vais faire des recherches pour retrouver ma fille.
Elle l'avait jamais revue?
Elle l'avait jamais revue parce que selon la loi... Si tu cherches quelqu'un, il faut que les deux se cherchent.
Ouais, ouais.
Hein? Donc, si la fille... Donc, sa fille la cherchait depuis longtemps.
Mais si votre mère la cherche pas...
Si ma mère la cherche pas, la connexion se fait pas. Ma mère s'est mise à la chercher quand elle me l'a dit, et elle l'a trouvée tout de suite. Et là, ben, c'est là que j'ai rencontré ma demi-sœur.
C'est comment ça qu'on apprend ça? C'est tout c'est un choc quand même. D'abord, on apprend une mauvaise nouvelle parce que c'est quelque chose de terrible qui est arrivé à notre mère.
Ouais, c'est plus... je vais t'avouer, ça m'a rien fait dans le sens... Ça m'a fait quelque chose, mais ça m'a fait quelque chose pour elle, pas pour moi. Pour toutes ces années-là qu'elle a dû avoir ce secret-là pendant... Écoute, c'est 30 ans, là. C'est 30 ans de temps qu'elle a gardé ce secret-là à l'intérieur d'elle-même, puis c'est difficile, tu sais, comme... moi, je suis un gars qui partage, je suis un gars qui dit tout, là, puis je me dis que ça devait être difficile pour elle, mais je comprends sa motivation aussi, elle voulait pas perdre mon père, tu sais. Puis... Ça m'a touché, puis ça m'a fait de la peine pour elle, plus que les conséquences pour moi, parce que moi, pour moi, à quelque part, m'en foutait un petit peu.
Au même moment où il y a les débuts avec Céline, il y a les bye-bye qui arrivent dans votre vie. Ça, c'est travaillé avec Dominique Michel, avec René Simard, avec Patrice Lécuyer.
Ouais.
Et on parlait de sens de timing tout à l'heure. On est dans la comédie, devant public, en direct à la télé.
Oui, en direct.
C'est comment, ça? Parce qu'évidemment, il y a plein de stress.
Ah, là, le
on
stress,
sait que c'est écouté. Il y a du monde.
Écoute, juste arriver à minuit, là,
oui,
imagine,
parce qu'il faut que ça soit
pile,
il
n'y
a pas le choix, il y a un décompte, il faut qu'il y ait pile, le monde attend à la maison. Là.
Ben, c'est ça, tu sais. Puis minuit, c'est minuit, hein, c'est pas minuit moins deux ou minuit et deux, là. C'est à minuit, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, tu sais. Il faut qu'il y ait le décompte, tu sais. Donc c'était plus ça, le stress, parce que dès que minuit était passé...
Voilà, la pression tombait.
Là, c'était le party.
Est-ce qu'il y a des sketchs qui sautaient carrément pour être sûr d'arriver
Il n'y en a pas eu, curieusement. C'était vraiment... Il faut dire que Claude Maher était un... était un grand réalisateur que moi j'ai aimé beaucoup. J'ai adoré travailler avec Claude. C'est un grand homme. C'est un grand homme de théâtre et c'est un grand homme de TV aussi. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui.
Et c'est comment qu'on voit tous ces acteurs, chanteurs-là jouer devant
c'est
nous?
C'est le fun. C'est le fun. Parce que c'était un peu comme une... comment je dirais ça? C'était un peu comme une... comment on appelle ça? Donc une création collective.
Ouais, ouais.
C'était très création collective. Chacun avait son mot à dire. Chacun des intervenants, moi comme chef d'orchestre, le réalisateur, Dodo, Patrice, tout le monde était très impliqué. Puis tout le monde donnait toujours son opinion franche. Puis c'était le fun. C'était vraiment le fun. C'est des beaux moments.
Avec Céline arrive le côté anglophone, avec Unison, ouais. Avec tous les succès, et mm-hmm. Beauty and the Beast,
ouais.
Qui a été, il me semble, le point d'ancrage.
Oui, je dirais que
c'est là que ça a décollé.
C'est là que ça a décollé, oui. Ouais.
Est-ce qu'on le sait quand arrive ce duo-là avec Peebo Bryson, que ça y est,
ça va faire
que ça va décoller comme
non,
ça?
Non, on le sait pas. On le sait pas. On l'espère, mais on le sait pas. Peebo, la chanson... C'est sûr que le fait que ça soit la toune thème de La Belle et la Bête...
Un film de Disney.
C'est ouais. Un film de Disney. Tu te dis, ouais, il y a des chances que ça marche, tu sais. Mais oui, c'est vraiment là que ça a décollé. C'est vraiment sur cet album-là, qui était son deuxième album anglais. Sur le premier album anglais... non, il y avait aussi sur cet album-là, si je me souviens bien, « Where Does My Heart Beat Now? » ».« Where Does My Heart Beat Now? » c'était une chanson qui avait été faite par un Britannique, Chris Neil. Et cette chanson-là, j'étais en plongée à Turks and Caicos.
Okay.
Moi, j'étais un amateur de plongée sous-marine. Je faisais beaucoup de plongée sous-marine. J'en fais moins là, maintenant que j'ai des enfants, mais... Et quand j'ai entendu « Where Does My Heart Beat Now? » sur le bateau, là, je me suis dit « Ouais, OK. » Si je suis à Turks and Caicos et j'entends ça, là, ça risque d'être un gros hit. Et comme de fait, ça a été son premier vrai hit. Premier vrai, mais je sais pas dans les charts là, si ça a été numéro un, je pense pas. Mais Beauty and the Beast a dû frôler le numéro 1, puis The Power of Love, chanson que...
Qui est une reprise.
Qui est une reprise, puis c'était pas ma chanson préférée.
OK.
Vraiment pas.
Comme la chanson Titanic pour Céline, finalement.
La chanson Titanic,
qu'elle avait refusé de faire.
Qu'elle avait refusé de faire, mais la chanson Titanic, moi, je l'aimais, ce okay. Je trouvais que c'était une bonne toune. Je trouvais que c'était vraiment une bonne toune. La première fois que je l'ai entendu, j'ai dit « Ah oui, ça c'est un méchant hit. » Puis là, en plus, le film Titanic, puis tout.
Ça a été travaillé avec plein de monde aussi. David Foster,
ouais.
Goldman, qui a travaillé avec Céline, ouais. Beaucoup. C'est quand même côtoyé, ces gens-là, qui sont un peu plus dans l'ombre, par exemple.
Oui, mais Foster, c'était le fun. J'ai joué souvent avec... Foster faisait souvent des shows bénéfices, comme pour André Agassi,
ouais.
Par exemple. Et il m'engageait, moi, comme claviériste pour aller jouer avec lui sur le spectacle. Puis j'aimais ça. J'aimais ça parce que là, on joue avec les grands. Là. C'est les top musiciens au monde. Là, c'était encore une école pour moi, beaucoup. Mais c'est des grands. C'est encore des grands. Je ne me compare même pas à ces grands-là.
Après ça, arrivent les grandes scènes, évidemment la France,
ouais.
Avec l'Olympia.
Les stades.
Quand on joue à l'Olympia,
ouais, okay.
Quand on arrive à l'Olympia et qu'on sait que tous les grands de la chanson française ont passé là,
ouais.
C'est comment qu'on met les pieds sur cette scène-là?
Ben, moi, j'y avais déjà été à l'Olympia. J'avais joué avec Fabienne Thibault.
Oui.
Et
oui.
J'avais joué avec avec Edith Butler aussi, à l'Olympia. Donc, pour moi, c'était...
C'était un endroit comme les autres.
Je m'en reviens à la maison.
Et il y a eu les stades, évidemment, où là, c'est des marées de monde.
Là, c'est des 60 000, 80 000, 90 000 personnes.
Est-ce que c'était peurant la première fois?
Non, au contraire, c'est moins... moi, en tout cas, moi, je ne sais pas si les autres...
C'est plus peurant intime que...
C'est plus épeurant intime que grandiose.
Pourquoi? Ouais. Parce qu'on voit pas les gens d'abord?
Ouais. Ben, ils sont loin.
On voit une marée.
On voit une marée. Mais la proximité comme ça, là, c'est plus comment je dirais, plus stressant pour moi en tout cas.
Évidemment, il y a eu des tournées internationales avec Céline. Ouais. Quand on veut voyager, c'est une chance d'avoir vu tous ces coins-là du monde où la plupart des gens n'ont pas le temps de faire tout ça dans leur vie.
Ben, Céline n'avait pas le temps de se promener, elle, en tout cas, tu sais.
Mais vous autres, les musiciens, un peu
ben
plus?
Ben oui, on avait du temps parce que Céline ne faisait jamais plus de 3 ou 4 spectacles par semaine. Donc, nous, c'est sûr qu'on avait le voyage pour se rendre à la prochaine ville, mais ou le prochain pays, hein, parce qu'on pouvait partir de l'Afrique du Sud, puis s'en aller à Dubaï, puis partir de Dubaï, puis aller au Japon, puis partir du Japon, puis aller en Corée. Et revenir de la Corée, aller en Australie, aller en tout cas. Mais on avait toujours comme une journée là, pour se replacer et visiter et faire ce qu'on avait envie de faire dans les villes.
Les coups de cœur, ça a été quoi? Les endroits que vous avez vus, les plus magnifiques, là, si on avait des suggestions voyage.
Suggestions voyage, moi, ma ville préférée au monde, c'est Sydney en Australie.
Okay.
Sydney, c'est comme Montréal en Californie.
Okay.
Donc, tu sais, c'est beaucoup aussi la mer. Moi, étant un admirateur de la mer, et il y a beaucoup de piscines qui reçoivent l'eau de la mer, puis baigner. Puis là, tu marches pendant... Il y a beaucoup de sentiers sur le bord de la mer, tu sais, là-bas. Et donc, tu marches d'un village à l'autre, comme ça. Moi, je pouvais marcher 3 heures, là. Et je reprenais un taxi à l'autre bout, je m'en revenais, tu sais, de Bondi Beach à n'importe quel... En tout cas, on se promenait beaucoup. Et il y a des petites baies partout. Puis, en tout cas, moi, c'est vraiment mon coup de cœur, moi, Sydney. D'ailleurs, si... un endroit où j'aimerais vivre, ça pourrait être Sydney.
OK.
Oui, à ce point-là.
OK.
Mais c'est pas achetable. C'est cher. C'est des millions pour avoir un petit appart. Là. Non, ça n'a pas de bon sens. Le coût de la vie est très cher là-bas. D'autres villes, les petites villes, Bruges, Bellagio. Bellagio en Italie, dans les lacs en haut. Bruges en Belgique. Dans les grandes villes, Copenhague, Dublin. Dublin et Copenhague, c'est des villes que j'ai aimées beaucoup.
Et arrive Vegas, à un moment donné, à tout ça. René décide qu'on s'installe, qu'on ne bouge plus, qu'on s'installe à Vegas pour les enfants, pour la famille.
Là, j'ai besoin de réflexion.
Oui, parce que vous êtes plus sûr que c'est ça que vous voulez.
Moi,
là.
Vegas, c'est une ville que je détestais. Chaque fois qu'on était en tournée et qu'on arrivait à Vegas, je te donne un exemple. Mettons qu'on prenait le tour bus là, qu'on venait de Phoenix en Arizona ou qu'on venait de Los Angeles. Donc, il y avait toujours un arrêt à Vegas. Et Vegas, c'était toujours, par exemple, la place que on arrivait en tour bus puis l'autobus de tournée. Et là, les chambres n'étaient jamais prêtes. T'sais. Les chambres n'étaient jamais prêtes avant 5 ou 6 heures en fin de journée. T'sais. Donc, c'était tout le temps désorganisé. Puis moi,
en même temps, je suis quasiment ça qu'ils veulent pas que le monde ait joué.
Ben oui, c'est ça qu'ils veulent.
Ils veulent pas que les chambres soient prêtes que le monde ait joué.
Ben oui, c'est sûr. Mais moi, je suis pas casino, je suis pas gambler pour 5 cents. Ça fait que j'aimais pas ça, cette ville-là. Et pourtant, quand j'ai décidé d'y aller, je suis allé à fond. Puis je me suis trouvé une petite maison sur le bord d'un lac. Artificiel, naturellement.
Comme, parce que tout est faux
comme
avec
tout le reste.
C'est ça.
Artificiel comme tout le reste. Finalement, on a eu une très belle vie pendant 13 ans, moi. C'est là que j'ai marié ma blonde. C'est là qu'on a conçu nos enfants. C'est là que c'est une ville à laquelle je suis très attaché maintenant. Depuis, par contre, que René est décédé, je me suis détaché un petit peu de la ville. Mais c'est une ville que j'ai aimé vivre dans cette ville-là.
À travers tout ça, bien, vous avez vécu évidemment les deux cancers de René, dont ouais. le dernier où René a dû céder
ouais.
La direction à Aldo Giampaolo.
Ouais.
On prend une pause des spectacles, évidemment, pour vivre tout ça. Et il y a un meeting dont on parlait.
Il y avait une pause de spectacle qui a duré 9 mois, qui était due à... Céline voulait s'occuper de René.
Oui, c'est ça.
Et donc, elle a fait un arrêt, mais un arrêt dont on ne savait pas la durée.
Et là arrive le meeting dont on parlait tout
arrive
à l'heure.
Le fameux meeting.
Le téléphone où on vous convoque un meeting. Vous pensez
que ça repart.
Donc, vous partez de chez vous, vous êtes à Manouk.
C'est
beau, là.
Puis là, j'en fais des farces là, à Aldo, puis à Denis qui était là. Je fais des farces, là. Lui, il arrive avec sa famille, ça fait que j'ai dit, bon, les écoles, comment ça va, tout ça, puis là, je compte toutes sortes d'anecdotes. Et jusqu'à temps qu'ils disent, bon, alors, de quoi on parle, pourquoi je suis ici, de quoi on parle? Ben, et là, on m'annonce qu'on ne renouvelle pas mon contrat. Donc là, ça a été comme, je t'avoue, j'entendais plus rien après, là. Il y a eu comme un tourbillon dans ma tête, là, puis... Les raisons, il n'y avait pas de raison. T'sais. Les raisons étaient, on veut changer l'image de Céline. Oui, mais l'image, il y a 30 musiciens, t'en mets 4 dehors, ça ne change pas l'image, ça ne change rien. Les raisons étaient, j'ai jamais eu les vraies raisons. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas partager avec vous, parce que personne ne m'a jamais dit les vraies raisons. Mais ça a été un choc. C'est un choc.
À quel moment vous savez que vous êtes 4 à vous en aller? Est-ce que déjà dans ce meeting-là, on vous le dit ou c'est en parlant aux autres après?
Il y en avait quatre qui avaient un meeting ce jour-là.
Okay, okay.
Et c'est drôle parce que c'était les quatre qui vivaient à Vegas, en plus. Tous les autres musiciens, ils ne vivaient pas à Vegas. C'est les seuls quatre qui vivaient à Vegas. Donc... eux autres, je savais qu'il y avait un meeting, donc je leur ai texté tout de suite que moi, en tout cas, je venais de me faire mettre dehors. Puis,
vous étiez le premier des quatre à avoir le meeting?
J'étais le premier des quatre, ouais.
Donc, ils savaient un peu à quoi s'attendre.
Ben, ils se doutaient là, que c'était ça qui s'en venait. Fait qu'ils ont pu se préparer un peu plus que moi, mentalement.
Quand on revient à la maison
ouais.
et qu'on doit annoncer ça à Manouk, qui travaille aussi
ouais,
pour l'équipe de Céline.
Ouais. Ouais.
C'est comment?
Ah, c'est tough, là. C'est comme on n'y croit pas. C'est comme ça se peut pas. C'est comme le... On comprend pas. C'est comme... ça se peut pas. C'est tout ce que je peux dire. C'est comme... Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de... Pourquoi on est complètement abasourdi par la nouvelle.
Mais là, ça donne plus rien de rester à Vegas. Si on n'a plus de contrat à Vegas, est-ce qu'on hésite à revenir au Québec?
En plus, je suis sur le bord d'un lac, OK? Puis, si on hésite à revenir au Québec, ouais. Ben moi, j'avais essayé d'aller en Californie. Je voulais...
Vivre là?
Je voulais continuer en Californie. Je voulais... j'avais déjà fait des approches avec des musiciens là-bas.
Okay.
Avec David Foster, avec... un ami à moi qui s'appelle Bill Ross qui a fait les arrangements tous les arrangements orchestraux de Harry Potter.
Wow.
C'est lui qui a composé la musique d'Harry Potter. C'est lui qui est le chef d'orchestre de Barbara Streisand.
Quand même.
C'est vraiment un bon ami à moi. Et ce monsieur-là, ben, il a une maison de production pour faire des musiques de films, justement, maintenant. Et j'ai dit, écoute, j'aimerais ça venir travailler avec vous autres ici, puis tout ça. Pis, et ça, il n'y a rien qui a fonctionné de mes recherches. Donc, je me suis dit, ouais, OK, si ça ne marche pas en Californie, puis en Californie, ça coûte cher à vivre. Hein. Si tu veux un train de vie minimum, là, ça coûte.
On parlait de Londres tantôt. Là, on est.
Ouais, ouais, mais ça ressemble.
On est pas mal là.
Ouais, on est pas mal dans le même bracket, comme on dit. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, là, on est parti en vacances, moi et ma blonde, avec les enfants. On est allé au Yucatan, t'es allé au Mexique. Puis, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, OK, on parle plus de ça pendant toute la semaine. Là. On parle plus de Céline puis de tout ça. Là. On profite de notre semaine de vacances. Donc, on profite de notre semaine de vacances. Et à la fin des vacances, on s'est regardé tous les deux. On a dit, on retourne au Québec. On avait la réponse. Au bout de la semaine, on savait que qu'est-ce qu'on ferait. Mais qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est que juste avant qu'on parte en vacances, on vivait sur le bord d'un lac, nous autres, le lac artificiel. Hein? Là. Mais le lac artificiel, il y avait plein... dans ce lac-là, il y avait des... pas des perchaudes, des basses. En tout cas, ils appelaient ça basses en anglais. C'est quoi des basses? En tout cas, j'ai pas la traduction française. C'est des gros poissons, en tout cas. Puis tous les poissons, ils ont manqué d'oxygène.
Ils sont morts.
Dans le lac, puis ils flottaient tous, tu sais. Ils flottaient tous à la surface.
C'était intense.
Du lac, tu sais. Puis là, ça, là, quand on a vu ça, on a dit, ben ça, c'est un signe.
C'est un signe.
C'est un signe. Il faut s'en aller. Il faut s'en aller d'ici.
Quand on prend la décision de revenir au Québec, ça implique ouais. de ramener les enfants aussi, ouais. qui sont des Américains.
Oui, ils sont nés là-bas, oui. Ouais.
Et eux, est-ce que ça a provoqué un changement majeur chez eux? Est-ce que vous avez eux vu une autres, différence là, quand ils sont arrivés ici?
Sont tellement contents d'être ici. Tu sais, il ne faut pas oublier que quand tu vis à Vegas, là, l'été, là, c'est pas endurable dehors, là, l'été. Ça fait que nous, on avait un motorisé, par contre. Ça fait qu'on s'en allait tout le temps dans le nord avec la motorisée, quand on pouvait, quand Céline n'avait pas de chaud. T'sais. Mais il y a souvent... les enfants... T'sais, ils ont leurs vacances d'été, l'été. Fait que il n'y a pas d'enfants dans les rues, là. Il n'y a personne qui a
envie. Ben non, ils jouent pas dehors. Ben
non, ça joue dehors dans la piscine, oui.
Oui.
Mais ça reste assez fermé quand même. T'sais. Donc, ça, c'est pas fameux pour les enfants. T'sais. Puis l'hiver, il fait froid. Il fait pas froid comme ici, là, mais il fait. Tu sais, il vente, puis c'est pas agréable l'hiver. Fait que l'hiver, tu sors. Les belles saisons là, à Vegas, c'est le printemps et l'automne. Ça, c'est merveilleux. Mais l'hiver et l'été, là, non, tu veux pas vivre là. Puis, les enfants, revenir au Québec, ben là, c'est la neige. Puis, ils sont heureux, eux autres. Là, puis, c'est juste en français. Ils n'ont même plus besoin de se boguer de l'anglais.
Mais ils sont parfaitement bilingues.
Ils sont parfaitement. Ouais, Maïka, elle a 6 ans.
La plus jeune, ouais,
elle a 6 ans. Elle avait 2 ans et demi quand on est parti. Ça fait qu'elle, l'anglais, elle n'a pas connu ça. Donc, elle travaille plus fort. Elle bûche plus fort, elle. Elle, apprendre l'anglais, c'est plus tough que Nathan. Lui, Nathan, c'est facile. Il y a 9 ans, puis oui, il est allé à l'école anglaise là-bas. Donc, oui, lui, ça va bien.
Est-ce qu'on fait cette bio-là pour eux autres?
Oui, bon, oui.
Le plus vieux, évidemment, c'est une grande partie de l'histoire. Et il y a 45 ans, vous l'avez dit.
Ouais, mais
les plus
jeunes, le plus vieux.
Mais les plus jeunes, eux, n'ont pas accès. Et c'est rare qu'on ait accès à la vie
de ton père. Ouais. Ouais, ouais. Ben, c'est beaucoup pour ça. Que je l'ai écrit. Je voulais écrire quelque chose qui n'était pas un règlement de compte, surtout pas. Parce que l'année après, l'année et demie après le renvoi, ça a été difficile pour moi. T'sais, ça a été...
dépression.
J'ai trouvé ça tough. Pas de dépression, mais un genre dépressif, là, en tout cas. Là. Ouais. Puis ça, d'ailleurs, le livre, c'était une thérapie en même temps.
Comme jaser avec le psy.
C'est comme jaser avec le psy, mais le psy, c'est l'auteur.
C'est un sommelier.
C'est un sommelier. C'est ça. Fait que ça se prenait bien quand même.
Oui, quand même.
Mais, pour revenir aux enfants, oui, les enfants, c'est je voulais leur laisser la vérité. Je voulais pas qu'ils, tu sais,
qu'il y a des doutes.
Le jour que je ne sois pas là, je voulais qu'ils sachent vraiment, c'était qui le papa? Là?
À un moment donné, vous allez au Columbarium pour rendre visite à votre mère.
Oui.
Et c'est là que ça vous vient l'idée de retourner
c'est plus qu'à l'idée, hein?
À Vegas. Il y a un flash qui arrive là.
Là. Quand je suis allé au Columbarium, bon, ma mère est décédée en 2013. Et en 2016, je filais pas bien. Tu sais, début 2016, je filais pas bien. Ça fait que je vais au Columbarium, puis je vais me recueillir à côté de la petite niche de ma mère. Puis dans ma tête, je communique avec elle. Puis je dis, parce que j'ai un petit côté ésotérique, moi. Hein? J'ai toujours cru
qu'il
y a quelque chose. Tu sais? Puis, donc, je me recueille à côté de la niche de ma mère. Puis je dis, ah, tu sais, ça va pas bien. Tu sais, j'ai de la misère à remonter à la côte depuis que je peux avec Céline. Tout ça, tu sais, tout ça se fait télépathiquement. Puis là, il y a un mot qui m'est arrivé à l'esprit et le mot est très, très... C'est arrivé très, très clairement dans mon esprit. Et le mot, c'était « pardonne ». Puis, à partir de ce moment-là, mon attitude a changé par rapport à tout ce qui s'était passé, puis tout ça. Puis là, j'ai dit « ouais, pardonne ». C'est facile de dire « pardonner », mais, tu sais, c'est pas évident, tu sais, dans les gestes de tous les jours de pardonner. Et finalement, j'y suis arrivé. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire le livre. Tout s'est enchaîné.
Et vous êtes même retourné à Vegas?
Je suis même retourné à Vegas voir le show de Céline.
Avec Frédéric?
Avec Frédéric. Parce que Frédéric...
Cet été, ça
c'est lui
passé,
qui est. Oui, en juin cet été. Et Frédéric est... Ce qui l'aide beaucoup à écrire, c'est quand il est dans les lieux, quand il vit les lieux. Tu sais. Et on l'a vu, ça je l'avais vu avec le... Mais c'est lui qui me l'a proposé, c'est lui qui m'a poussé à y aller, parce que moi, je n'ai pas plus que ça à aller voir le show. Là. Mais il m'a poussé à y aller et je suis allé. Et j'étais bien content d'y avoir été, parce que ça a vraiment... Ça a vraiment réglé toute l'histoire. Là.
Parce que vous avez même tenté d'aller voir Céline.
Comment tu passais? Oui, je suis allé voir Céline.
Et ça a duré...
Ouais, ça a duré
4
minutes.
Mais c'était fait. C'était fait.
Oui, c'était fait.
C'était réglé. C'était quelque chose qui se réglait.
C'était réglé, oui.
Et là, c'est quoi la suite pour vous, maintenant?
La suite pour moi, là, je commence à penser à peut-être faire des conférences. Peut-être.
OK.
Ouais, des conférences, mais sous forme de show que je jouerais aussi.
Jouer des pièces que vous avez jouées sur scène pas nécessairement, mais des influences.
Toutes des nouvelles affaires.
Ah, OK.
Toutes des nouvelles. Toutes renouveler mon catalogue au complet. Et j'y pense. Je vais-tu le faire? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si ça me tente d'être on the spotlight.
Parce que toute votre vie, vous avez été un peu dans l'ombre.
Oui, mais j'haïs pas ça, être dans l'ombre, tu sais, aussi. Ça fait que je sais pas si je vais aller me mettre en avant. C'est mon seul questionnement.
À la fin de votre aventure avec Céline, les fans de Céline nous ont fait un super beau cadeau.
Vraiment.
Un montage vidéo.
Ah, ouais.
Comment on réagit quand on voit ça? Parce qu'évidemment, on sait que ce sont des fans de Céline, mais au-delà de ça... C'est des fans des êtres humains de cette équipe-là.
Des musiciens, des quatre musiciens. Ils ont fait un vidéo qui durait trois quarts d'heure sur chacun des quatre musiciens qui sont partis. Et je vais te dire, c'est touchant. Là. C'est tellement touchant. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché, ce vidéo-là. Ils nous disent comment ils nous aiment, puis ils nous disent que ça n'a pas de bon sens que ça arrive, puis tout ça. Mais c'est vraiment touchant.
Est-ce qu'on pense qu'on est aimé tant que ça par les fans de celle-là?
Non, on ne le pense pas. On pense pas. Mais notre guitariste, André Coutu, il entretenait ça. Lui, il était bon.
Okay. Lui, il le parlait?
Non, mais il était bien bon sur Facebook. Okay, okay. Lui, c'était Monsieur Fans. Il s'occupait des fans. Là, comme personne, c'est probablement occupé des fans de Céline à ce point-là. Il était vraiment connecté, lui, sur Facebook, sur tous les fans. Puis, tu sais, je pense, il doit avoir 5000 invitations de Facebook, de fans. Puis, C'était très touchant, ce vidéo-là. D'ailleurs, c'est une vidéo que vous pouvez voir sur YouTube.
C'est magnifique.
Mais ça serait le fun si vous pouviez trouver le lien.
Je vais le mettre sur.
Ça serait une bonne idée parce que c'est vraiment touchant.
Mego, merci d'avoir été là.
Hey, ça fait plaisir.
J'invite les gens à se procurer la biographie de Frédéric, écrite par Frédéric Arnold, qui est disponible partout.
Ouais.
Merci beaucoup d'avoir été là.
Ça fait plaisir.